de la bêtise, de la force brute, de l'histoire, son intelligence l'aurait, contre toute attente, préservée. C'est un peu injuste, mais c'est sa vie, dit Augustin, trop sage pour rien vouloir prouver, trop prudent. La chirurgie fait des progrès durant les guerres, non? Par la fenêtre ouverte, on entendit au loin des roulements de tambours et les premiers accents de sambre et meuse. Ça pouvait pas durer, dit Charles. Le voilà, le vacarme, sans doute des territoriaux. Tu sais, certains jours, j'ai souhaité partir, tout laisser. Ce n'est plus le cas maintenant. Le vieil esprit de contradiction. Au moment où Augustin débouchait une eau-de-vie de prune, cadeau de Marie-Antoinette, ils entendirent tinter, en bas, la porte de la librairie. Le consul, en retraite, avait prévenu qu'il passerait. Ces derniers temps, il était venu souvent à la librairie. Charles le trouvait désespérant et drôle, et très intelligent aussi. Fort répandu dans les milieux littéraires, il avait fait connaître la librairie des deux mondes à ses amis. Un soir, il avait amené Urdia pour y lire des vers et depuis lors, en guise de bonjour, il déclamait, et l'implacable frais couvre l'Égypte entière. Charles se pencha sur l'escalier et répondit, « Il n'y a personne en bas parce que c'est la guerre. Le public est en haut, montez donc. » Le consul gravit péniblement l'escalier et parvint dans l'appartement. « Si vous avez encore quelques paroles vaines à prononcer, allez-y pendant que je reprends mon souffle. » Après, il sera trop tard. Augustin lui tendit un petit verre de prune. Un peu de prune pour échauffer votre monologue, elle vient de chez moi dans le Berry. Il n'aurait rien dit de tel il y a seulement 6 mois, pensa son père. C'est à cause de Marie-Antoinette, sûrement. Le consul tomba dans un fauteuil, le verre à la main. Charles-Pierre le trouva plus gros qu'avant, et le teint trop gris, content de vous voir tous les deux. Ils font tout leur bagage, ils ont l'air pressés. L'air important, dit l'Égyptien sans emphase aucune, Augustin l'interrogea sur le quai d'Orsay. Depuis ma retraite, je n'y mets plus guère les pieds, et puis maintenant c'est fini pour eux, ils ont craché leurs dernières arguties. Place à la poudre, il y a Bursulot qui est vraiment méchant, rare qualité chez un diplomate. Vous connaissez Viviani, je l'ai vu autrefois en Égypte, c'est un Avrupid. Du gibier pour vous, professeur, vous savez, nous ne sommes pas si bien pourvus. Même Clemenceau, voyez-vous, hier j'ai déjeuné avec son secrétaire, un garçon un peu triste que j'avais connu au Panama. Il m'a avoué qu'il faisait tenir la voiture chargée et bâchée parce que le vieux ne voulait pas revoir la commune. Rien que ça. Le consul, qui était fin, stigmatisa la tristesse des hommes de gouvernement. Ils avaient pourtant de quoi s'amuser, avec le vice et les hasards, et les autres petits mots, mordants, acides, de la politique, ce qu'on ne prononce jamais. Ils disposaient aussi des cours d'Europe, des mines du Creusot et des vignobles et des Balkans, de tout ce dont on doit s'arranger. Des amis politiques, des ennemis tout court, des solliciteurs et des poules, deux ou trois intelligences à qui parler. Pourquoi la tristesse ? S'interrogeait le consul en clignant de l'œil. Et il remarquait avec l'air entendu que les seuls à n'être pas tristes étaient ceux qui pratiquaient cet art comme un métier. Augustin écoutait avec beaucoup d'attention. Le libraire, qui n'aimait pas la politique concrète, tenta de dévier le flot naissant vers la littérature et les littérateurs. « Vous n'allez pas fermer, au moins ?» interrogea le consul. « Ce serait affreux. Si vous fermez, Louis ne sortira plus de chez lui et Régnier s'exilera à Venise. » Et puis à nous deux, au milieu des livres, nous pourrions convaincre D'Annunzio d'entrer en guerre à nos côtés. Oui, mais D'Annunzio tout seul, sans l'Italie, dit Augustin. D'Annunzio, quand le consul, qu'il avait connu à Rome, l'avait amené, Charles-Pierre l'avait trouvé décevant. Pierre-Louis, avec son air de fatigue et de vice, lui avait plu davantage. Régnier était reparti sans prononcer 3 mots. « Je dois y aller, dit Augustin. Remettre un peu d'ordre à l'hôpital, voilà bien la guerre, c'est l'ordre, c'est pourquoi elle plaît à tous les timides, ceux qui enfants refusaient d'aller dire bonjour au milieu du salon de leurs parents, sous les lumières trop dures, avec ces femmes trop grandes. La sobriété, mes amis. Un peu de sobriété nous contentera, c'est lâche mais c'est ainsi. À la guerre les femmes disparaissent et nous avons si peur d'elles. Toujours cette manie de s'expliquer, pensa Charles-Pierre. Encore un qui ignore le confessionnal. Les femmes avancent partout, il y a 10 ans elles n'étaient pas admises à l'orchestre, à l'opéra. L'orchestre était un lac noir et blanc d'où s'élevait un murmure profond. Maintenant on y voit des cheveux et des perles, on y entend des rires, j'y vais comme dans le salon de mes parents, la même peur, vivement la guerre, chacun ses peurs, dit Augustin en lui serrant la main. Il descendit l'escalier, entendit quelques mots encore, la mort. Mais la mort, cher ami, ce sont des ténèbres vertes, et, dans la rue il croisa la femme de charge. Son fils partait l'après-midi même garde-lait. Désemparée, elle ressassait de pauvres encouragements, qui s'adressaient à lui, à elle, au petit univers qu'elle s'était créé à force de travail et de patience. En la voyant s'éloigner, Augustin fut pris du désir de revoir Marie-Antoinette, un désir plus violent qu'aucun de ceux qu'il avait éprouvé jusque-là. Il prit le chemin de son ancien collège. Jamais il n'y était revenu. C'était sans doute le jour qu'il fallait, avec une lumière oblique déjà, rasant le faîte des arbres et les maisons les plus hautes. Le collège était vide. Il revit la première cour, avec le fronton surmonté d'une descente de croix en bois peint, et la seconde, un peu surélevée, finissant en préau, en chapelle. La masse imposante de l'église du collège dominait, elle, l'ensemble des bâtiments.